Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, bienvenue en particulier pour les personnes qui sont là pour la première fois parmi nous. Et bien sûr, je voudrais aussi accueillir tous les autres. Un petit test pour vérifier si vous avez bien écouté les semaines précédentes. Un petit test sur le livre de l'Exode. Alors, c'est des questions simples et vous pouvez... très largement participé. Première question, pour quelle raison le Pharaon a-t-il réduit les Israélites en esclavage? La réponse se trouve dans le premier chapitre. Alors, parce qu'il avait peur d'eux, mais plus précisément, pourquoi avait-il peur d'eux? Parce qu'ils se multipliaient et devenaient de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants. Deuxième question, et les autres ont une chance aussi de répondre, pourquoi Moïse a-t-il fui l'Égypte, d'après le chapitre 2? Il a tué un Égyptien en défendant un frère, un de ses frères hébreux. Eh bien, il a dû tuer un Égyptien et à cause de cela, il a dû fuir. Question numéro 3, dans le chapitre 3. Dans sa révélation, quel est le nom que Dieu a donné à Moïse? Je suis celui qui suis, ou en raccourci, l'Éternel. Quatrième question, est-ce que vous pouvez me citer deux objections de Moïse lorsqu'il était justement face à Dieu au mont Horeb, deux objections qu'il a données pour ne pas y aller? Il n'avait pas vraiment envie d'accomplir sa mission. Alors Louis. Alors déjà, il dit que ce n'est pas un bon orateur. Effectivement, il dit qu'il n'a pas la parole facile. Une deuxième objection, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, ils ne m'écouteront pas, donc effectivement. Alors, il n'a pas dit « envoie mon frère », mais il a dit « envoie qui tu veux, mais pas moi ». Donc, effectivement, Dieu a pourvu à cela en envoyant son frère. Et puis, dernière question, dans le chapitre 4, quels sont les signes que Dieu a donnés à Moïse? Pour justement authentifier que c'est bien Dieu qui l'envoie. Quels sont les, je vous aide, les trois signes? Alors, effectivement, le bâton qui se transforme en serpent, ça c'est le premier signe. Le deuxième, la main qui devient lépreuse et ensuite qui est guérie. Et puis le troisième signe, l'eau qui se transforme en sang. C'est bien, vous avez bien écouté. Moïse et Aaron sont en Égypte. Ils viennent de parler au peuple qui a cru. En entendant les paroles de Dieu, en voyant les signes, ils ont cru. Et nous sommes maintenant au chapitre 5, et je lis les premiers versets. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel ? Pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël. Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permis-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. » Le pharaon ajouta, « Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées ?» Nous l'avons dit la semaine dernière, la mission ne sera pas facile. Et nous en avons déjà ici un premier aperçu. Non seulement le Pharaon refuse ce que demandent Moïse et Aaron au nom de l'Éternel, mais en plus, la situation va se gâter. Alors je résume juste la suite, mais nous aurons l'occasion de lire la suite du texte tout à l'heure. Les Israélites, déjà durement éprouvés par les travaux forcés, vont devoir travailler encore plus dur, encore et encore. Pourtant, Dieu avait dit qu'il allait les libérer de l'Égypte. Alors Moïse ne comprend pas. Moïse ne comprend pas pourquoi Dieu a laissé la situation empirer. Et chapitre 6, je lis le premier verset. Alors c'est le chapitre 6, pas 5. Le chapitre 6, « L'Éternel dit à Moïse, Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu n'a pas changé d'avis concernant les Israélites. De nouveau, il rappelle à Moïse qu'il compte délivrer son peuple et le mener dans le pays qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais le peuple n'y croit plus. Moïse est intervenu une fois et voilà que la situation s'est aggravée. Donc le peuple n'y croit plus. Pourtant, à la fin de notre texte, l'Éternel envoie de nouveau Moïse et son frère Aaron vers le Pharaon. Quand on arrive au terme de cette section, chapitre 5, chapitre 6 jusqu'au verset 13, il semble que les attitudes humaines sont plutôt négatives. Le peuple a perdu sa confiance initiale qu'elle avait accordée en l'Éternel, et tout cela à cause de la dureté de son esclavage. La situation a empiré, donc le peuple ne fait plus confiance. Et puis de l'autre côté, Moïse, lui, ben maintenant il redoute de se présenter de nouveau devant le Pharaon, après le premier échec. À ce moment-là, ni le peuple, ni Moïse ne connaissent encore bien l'Éternel. Et nous ? Est-ce que nous connaissons bien le Dieu que nous sommes venus adorer ce matin ? Est-ce que nous le connaissons au point de ne pas tomber dans les mêmes attitudes que Moïse ou que le peuple ? Le doute, la peur, l'incrédulité. Selon vous, comment Dieu nous demande-t-il de réagir quand une situation empire au lieu de s'améliorer ? Comment Dieu nous demande-t-il de réagir lorsqu'une situation empire au lieu de s'améliorer, comme c'est le cas dans notre texte ? Eh bien, rappelons-le, Dieu est l'auteur du salut, comme il va le révéler dans notre texte. Nous allons le lire. Dieu est l'auteur du salut. Donc, premièrement, ne soyons pas étonnés des circonstances adverses. Et juste avant de poursuivre, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, j'ai besoin de toute ton aide pour que par cette prédication, tu puisses parler à ton peuple. Principalement par l'écriture, principalement parce que tu as inspiré à Moïse, qui est l'auteur de l'Exode. Et on te remercie, Seigneur, parce que cette parole nous est accessible. Elle a été transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que c'est toi qui parles par elle. Merci, Seigneur, de nous montrer encore une fois le Dieu merveilleux que tu es, comme nous l'avons chanté. Quel Dieu merveilleux tu es. Et particulièrement lorsque les circonstances sont difficiles, douloureuses, difficiles à comprendre, eh bien ce texte nous permet de nouveau de tourner notre regard vers toi, qui est le Dieu vivant. Alors nous nous en remettons à toi pour ce temps où nous voulons nous mettre à ton écoute, à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. S'il y a bien une situation qui nous colle à la peau en France, s'il y a bien une réputation qui nous colle bien à la peau, c'est le fait que nous soyons râleurs. J'ai parfois l'impression que la moindre chose devient une contrariété. Le train a du retard, nous râlons. La réunion ne commence pas à l'heure, nous râlons. Les enfants ont oublié à l'école une trousse ou une gomme, nous râlons. Il faut encore faire à manger lorsque nous rentrons, et bien sûr, nous râlons. Et vous avez là une journée type du râleur qui se plaint tout le temps. Mais doit-on s'étonner, je vous pose maintenant la question, doit-on s'étonner que dans un monde marqué par le péché, tout ne soit pas parfait ? Est-ce que ça doit nous étonner ? Et quand Dieu dit à Moïse qu'il sera avec lui et qu'il va délivrer les Israélites, devrait-il s'attendre à ce que tout se passe parfaitement bien ? Vous avez bien entendu, si Dieu a dit à Moïse qu'il sera avec lui et qu'il va délivrer les Israélites, est-ce que Moïse est en droit d'attendre que tout se passe parfaitement bien ? Ou si j'inverse la question, est-ce que lorsque les circonstances ne nous sont pas favorables, nous avons tendance à nous dire que Dieu n'est pas avec nous. Est-ce que Dieu n'était pas avec Moïse et Aaron au moment où ils se sont adressés au Pharaon? Bien sûr que oui. Dieu était avec Moïse et Aaron au moment où ils se sont présentés devant le Pharaon. Pourtant, comme nous l'avons lu, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Moïse et Aaron viennent avec l'autorité de Dieu, ils s'en font les porte-paroles, et peut-être avec trop de confiance. Je relis le verset 1 du chapitre 5. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Voici ce que dit l'Éternel. Et cette parole est adressée au Pharaon. C'est un ordre qui vient de l'Éternel, mais pour le Pharaon. Et le Pharaon qui entend cela, bah pour lui, ça n'a pas vraiment de sens. Et voici ce qu'il répond au verset 2. « Mais qui est l'Éternel ?» Vous me parlez de l'Éternel, mais qui est l'Éternel ? Pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël. Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Et c'est vrai que le Pharaon ne connaît pas le Dieu d'Israël. Qu'il n'a aucune raison d'ailleurs de perdre une main d'œuvre si nombreuse et qui lui est tellement utile. Et le Pharaon, il n'est pas fou. Et pourtant, il est insensé de s'opposer à Dieu. Et l'endurcissement de son cœur que Dieu avait déjà annoncé auparavant s'exprime déjà là. Pour lui, le Dieu des Hébreux n'est pas digne d'être entendu. Il donne un ordre, et puis alors, je ne le connais pas. Et tout cela va le conduire à durcir le ton. Et nous allons continuer la lecture au verset 6. « Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. « Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils auront eux-mêmes ramassé de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. » En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Verset 10, les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple « Voici ce que dit le Pharaon. Je ne vous donne plus de paille, allez-vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne supprime rien de votre travail. » Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs insistaient « Terminez votre tâche, chaque jour la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les commissaires des Israélites établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui, comme avant, la quantité de briques qui vous avait été fixée ?» Le ton monte. Ça devient difficile, là, pour les Israélites. Le Pharaon anéantit tous les espoirs des Israélites à ce moment-là, en les accablant de travail. Et à l'époque, la paille, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi ils ont besoin de paille pour fabriquer des briques, la paille servait à rendre les briques plus solides. Et c'est pour cela que c'était privilégié. Et désormais, il fallait en ramasser soi-même. Ce qui constituait évidemment, vous l'imaginez, une perte de temps dans la production. Avant, on leur procurait de la paille. Maintenant, il va falloir en chercher. Donc forcément, ils ne peuvent pas produire autant qu'avant. Et remarquez comment le Pharaon retourne la situation à son avantage. On le voit au verset 8, quand il dit justement que les Israélites sont des paresseux. Que si tout cela leur arrive, c'est parce que vous êtes paresseux. Donc on va augmenter votre travail. Pour que vous n'ayez pas cette idée de vouloir aller adorer votre Dieu. Au verset 9, nous voyons qu'il n'hésite pas à dire que les paroles qui ont été prononcées par Moïse et Aaron sont des paroles mensongères. C'est du mensonge. Ça vient de Dieu, mais c'est du mensonge. Et puis enfin, au verset 10, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que là où Moïse et Aaron disaient au verset 1, « Voici ce que dit l'Éternel », vous voyez au verset 10, qu'est-ce que le Pharaon fait dire ?« Voici ce que dit le Pharaon ». Il retourne la situation en sa faveur. « Voici ce que dit le Pharaon ». Et non pas, n'écoutez pas ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit le Pharaon. L'Éternel vous dit, laisse partir mon peuple. Mais moi, Pharaon, je vous dis, travaillez plus. Et nous assistons à une guerre qui a commencé entre l'Éternel et le Pharaon. Une guerre pour obtenir le service des Israélites. Et pour le moment, c'est le Pharaon qu'ils écoutent. Voici ce que dit le Pharaon, ils écoutent ce que dit le Pharaon. Et certains commentateurs ont justement relevé l'habileté cruelle du Pharaon. Parce que justement, en rendant la tâche impossible, le Pharaon va pousser le peuple à se retourner contre Moïse. À se dire, c'est à cause de vous que maintenant on est dans cette situation. Et c'est bien ce qui va se passer. Je continue la lecture au verset 15. Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant, « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne pas de la paille à tes serviteurs et l'on nous dit, « Faites des briques !» Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » Le Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » La situation vraiment se gâte. Et quelles que soient les plaintes qui sont émises, eh bien, le Pharaon ne veut rien entendre. Il reste totalement inflexible. Et d'ailleurs, on lit encore la suite, verset 19, « Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant, « Vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. » En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Et ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Et je crois qu'il n'est pas difficile à ce moment-là de nous mettre à la place des Israélites qui se plaignent auprès du Pharaon, puis auprès de Moïse et d'Aaron. Si vous avez déjà effectué un travail pénible et qu'on y ajoute en plus des conditions plus difficiles, et en plus on vous fait le reproche de ne pas tenir les délais, eh bien vous vous dites sans doute que c'est injuste. Eh bien, c'est ce que font les commissaires des Israélites, c'est-à-dire les contremaîtres qui reçoivent, eux, des coups, parce que la production de briques a diminué. Vous êtes des paresseux, dit le Pharaon. Allez travailler. Et dans cette situation, où est le Dieu qui libère ? Où est le Dieu qui a promis la libération, la délivrance de l'esclavage ? Et c'est en tout cas Moïse et Aaron qui sont tenus responsable de cette situation terrible. Écoutez la suite du texte au verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé ? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Oui, quand les circonstances ne se passent pas comme nous l'attendions, nous avons tendance à dire pourquoi. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi le Seigneur n'a-t-il rien fait ? Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas délivré comme il l'avait annoncé ? Combien de fois avons-nous raisonné ainsi ? Et peut-être qu'en ce moment même, tu te dis pourquoi ? Pourquoi les choses empirent alors que je suis un enfant de Dieu ? Pourquoi est-ce que l'opposition est-elle si vive et les cœurs si durs quand je cherche à annoncer l'Évangile ? Pourquoi est-ce que je lutte avec cette addiction, avec ce péché, sans pouvoir m'en sortir ? Tout à l'heure, nous avons lu la réponse de Dieu, au début du chapitre 6. Dieu ne répond pas « parce que ». Mais il dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. » Dieu ne répond pas parce que à nos pourquoi. Il peut nous donner une explication, mais il n'est pas obligé. Non, Dieu n'a aucune obligation de répondre à nos pourquoi. Mais il est patient. Il se montre patient avec Moïse, il se montre patient avec le peuple. Mais il dit, tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Connaître des circonstances adverses dans notre vie ne devrait pas nous étonner tant que ça. Souvenez-vous que Jésus-Christ lui-même n'a pas toujours connu des circonstances favorables dans son ministère. L'opposition du Pharaon, dans notre récit, est l'expression du rejet de Dieu. Et nous retrouvons ce rejet jusque chez nos contemporains. Parfois, la relation change lorsque nous avons dit que nous étions chrétiens et que nous avons partagé un peu de notre foi. L'autre se braque, ne veut plus en parler, ou pire, ne veut plus nous parler. Là aussi, nous sommes tentés de dire « Pourquoi, Seigneur ?» Pourquoi, alors que j'annonce une bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ, les circonstances ne sont pas plus favorables ? Dieu avait prévenu Moïse, ce ne sera pas facile, le Pharaon ne vous laissera pas partir. Et Dieu ne nous a pas promis non plus une mission facile. Je lisais encore la semaine dernière, au moment de la réunion de prière, le texte de Matthieu 24, où Jésus annonce à ses disciples des temps difficiles. Et j'aimerais lire ce texte, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 9. « Alors on vous livrera à la persécution, et l'on vous fera mourir. » Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez la succession de circonstances difficiles que le Seigneur annonce pour ses disciples. Voilà ce qui va vous arriver. Donc en fait, ça ne doit pas être étonnant qu'on puisse rencontrer des circonstances difficiles. Ne soyons donc pas étonnés des circonstances adverses. Nous vivons dans un monde qui est hostile à Dieu. Et s'ajoute à cela nos propres difficultés, notre propre lutte contre le péché, sans parler du mal que les autres nous font aussi. Alors tout cela rend bien difficile la tâche. Mais comme Dieu a été l'auteur de la délivrance d'Israël, Dieu est l'auteur de notre salut accompli par Jésus-Christ. Les circonstances adverses ne changent pas l'intention de Dieu à l'égard de son peuple. Et cette intention, c'est que Dieu veut sauver son peuple, quelles que soient les circonstances adverses. Donc ne soyons pas étonnés. Au contraire, et c'est la deuxième attitude à laquelle nous sommes, je pense, invités à avoir ce matin, c'est d'avoir confiance dans le Dieu de notre salut. Et ce sont les paroles de Dieu qui doivent nous faire lever la tête à ce moment-là. Alors que nous sommes peut-être en plein dans l'adversité, les paroles de Dieu vont nous faire lever la tête. Dieu n'a pas fait mine de ne pas avoir vu que la situation était grave. Il n'a pas fait mine non plus de ne pas avoir entendu que les Israélites souffraient encore plus. Mais Dieu annonce de nouveau qu'il va délivrer son peuple, et que c'est lui qui fixe les temps et les moments. Je relis le verset 1 du chapitre 6. « Tu vas voir maintenant, pas avant, pas quand la situation était en train d'empirer, tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Pour le moment, à l'heure actuelle, le Pharaon est complètement inflexible. Rien ne peut le faire changer d'avis. Il n'est pas possible de négocier avec lui. Mais lorsque Dieu interviendra avec puissance, notamment par les 10 fléaux qui vont s'abattre sur l'Égypte, eh bien ce Pharaon qui est inflexible ira jusqu'à chasser lui-même les Israélites de son territoire. Dieu annonce ici de nouveau qu'il y aura un retournement de situation. Oui, le Pharaon a l'air dur comme fer. C'est un dur à cuire. Il ne se laisse pas faire. Mais avec la puissance de Dieu, il cédera. Il laissera partir le peuple. Et même, c'est lui-même qui chassera ce peuple de son territoire. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Dieu a toujours le dernier mot sur le mal. Dieu a toujours le dernier mot sur le mal. Et si vous pensez en ce moment aux circonstances qui nous entourent, notre contexte actuel, retenez cette vérité. Dieu a toujours le dernier mot sur le mal. Écoutons ce que Dieu dit justement précisément dans cette grande révélation qu'il fait de nouveau à Moïse. Verset 2, Dieu s'adressa encore à Moïse et dit « Je suis l'Éternel, Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Ani Adonai, en hébreu, je suis l'Éternel, ou moi l'Éternel. Et vous voyez que c'est répété plusieurs fois dans notre texte, au verset 2 et suivant. Ani Adonai, je suis l'Éternel. Moïse ne connaît pas encore bien le Dieu qu'il a appelé au mont Horeb. Après tout, il a eu cette révélation il n'y a pas très longtemps. Mais Moïse, comme le peuple d'Israël et comme l'Église ce matin, doit apprendre à connaître celui qui dit « Je suis l'Éternel ». Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. Je suis et je serai. Si Dieu répète son nom plusieurs fois, comme vous le voyez dans notre texte, c'est bien parce qu'il veut se faire connaître. Il veut qu'il soit connu. Il veut qu'on sache qu'il est l'Éternel, le seul et l'unique. Et pour quel acte veut-il être connu à ce moment-là? Bien évidemment pour l'Exode. Il veut être connu pour l'Exode. Il veut être connu pour être le Dieu capable de libérer son peuple retenu esclave. Il veut être connu pour être le Dieu capable de conduire ce peuple jusqu'au pays qu'il a promis au patriarche il y a bien longtemps. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. C'est un nom qui doit à la fois nous inspirer crainte et confiance. Et regardons de plus près ce que Dieu dit d'abord à Moïse. Je relis le verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. Le Dieu qui est apparu au patriarche dans la Genèse est le même que le Dieu qui se présente à Moïse dans l'Exode. Et lorsqu'on regarde en Genèse chapitre 17, verset 1, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit quoi ? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et vous savez comment on dit en hébreu le Dieu Tout-Puissant ? On le chante parfois. Alors, c'est pas Yahvé, c'est El Shaddai. Ça vous dit quelque chose quand vous chantez El Shaddai, vous savez ce que ça veut dire quand même. Dieu Tout-Puissant. Dieu se révèle à Abraham à ce moment-là en disant « Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. » Et lorsque nous lisons le livre de la Genèse, il paraît probable que les patriarches connaissaient aussi le nom de l'Éternel. Mais en fait, ni Abraham et ni ses descendants immédiats ne verront ce que Moïse et le peuple vivront, à savoir cette grande délivrance de l'Exode. Et c'est ainsi que certains comprennent ce verset lorsque Dieu dit « Je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. » Non, ce n'est pas Abraham, Isaac ou Jacob qui ont vu cela de leurs propres yeux, mais c'est Moïse et le peuple d'Israël. Et au verset 4 et 5, Dieu rappelle qu'il a fait une alliance, et ça c'est vraiment important pour l'histoire de l'Exode. Il a fait une alliance avec les ancêtres du peuple, à qui il a promis qu'ils vont entrer en possession d'une terre, d'un pays. Et c'est en vertu de cette alliance que Dieu a eu compassion des Israélites et que Dieu va employer les grands moyens pour sauver son peuple en vertu de cette alliance. Il a fait une alliance autrefois. Et maintenant, il tient ses promesses. Il accomplit ce qu'il a dit. Et l'Éternel a aussi un message pour le peuple. Regardez tous les versets que j'ai mis en vert. Tous les versets qui sont employés et qui concernent ce que Dieu fait. À partir du verset 6. Libérer, délivrer. Ça ne s'invente pas. Libérer, délivrer, racheter, prendre, libérer de nouveau, faire entrer, donner. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu le sujet de toutes ses actions. Il s'occupe de tout. Il accomplit ce qu'il a promis des siècles auparavant. Le peuple peut avoir confiance en ce Dieu. Et quel Dieu ! Quel Dieu qui intervient pour libérer les Israélites ! Quel Dieu qui intervient pour faire d'eux son peuple et pour être leur Dieu. Oui, Dieu est vraiment l'auteur de leur salut et il est digne de confiance. Mais le récit nous dévoile un peuple qui est désabusé. Et j'aimerais juste lire la fin de notre texte. C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. L'Éternel dit à Moïse, « Va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Après tout ce que Dieu vient de rappeler, il envoie de nouveau auprès du Pharaon Moïse, le libérateur qu'il a choisi. Et puisque ce dernier dit encore qu'il n'a pas la parole facile, eh bien comme il l'a dit au chapitre 4, eh bien l'Éternel envoie Moïse et Aaron, donc tous les deux, pour poursuivre la libération. Cette libération qui ressemble plus à un processus qu'à un événement immédiat. Et Dieu prend de nouveau les rênes et il va faire plier le Pharaon. Nous savons que l'Exode a été la plus grande délivrance du peuple d'Israël. Aujourd'hui encore, la fête de la Pâque est fêtée par les Juifs en souvenir de cet événement historique. Donc c'est dire combien cet événement est vraiment, vraiment très important pour le peuple d'Israël. Et nous savons aussi que l'Exode est devenu le modèle pour parler d'une délivrance qui est plus grande. Et là aussi, dans cette délivrance plus grande, Dieu s'est occupé de tout. Là aussi, Dieu a employé les grands moyens en envoyant son propre Fils, Jésus-Christ. Fils de Dieu devenu homme, pour vivre parmi les êtres humains. Par l'œuvre entière de Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés du péché qui n'a plus de droit sur nous en tant que maître, puisque nous sommes pardonnés, puisque nous appartenons à Dieu désormais. Par Jésus, Dieu nous a délivrés de cet esclavage, bien plus coriace que celui des Égyptiens. Par Jésus, Dieu nous a rachetés avec puissance. Et quelle puissance ! Lorsque Jésus est revenu à la vie et qu'il est retourné auprès du Père. L'apôtre Paul en parle dans son épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 21. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, verset 19, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, on parle de la puissance de Dieu, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Dieu emploie les grands moyens pour ce salut en envoyant son propre Fils. Qu'il ressuscite avec puissance et qu'il le fait asseoir à sa droite, au-dessus de tout. Dieu nous a rachetés au prix fort de la vie de Jésus. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvions rien faire pour nous sauver de la condamnation que méritaient nos fautes. Absolument rien. Et la loi de Dieu nous condamnait à la malédiction. Mais Christ est devenu malédiction, précisément. Christ est devenu malédiction lorsqu'il a été cloué à notre place sur la croix. Lorsqu'il a subi le châtiment que nous méritions amplement. Et Paul peut affirmer aux Galates, Galates chapitre 3, verset 14, « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Parce que Christ est devenu malédiction, eh bien, il nous a permis de pouvoir obtenir la bénédiction. Cette bénédiction qui date du temps d'Abraham. Et là, vous voyez un petit peu comment Jésus accomplit cette promesse faite à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Assurément, en Christ, Dieu fait de nous son peuple. Et il est notre Dieu. Oui, l'éternel Dieu, le même, celui qui parle à Moïse dans notre texte et qui aujourd'hui nous parle encore. L'éternel Dieu est l'auteur de ce salut que je viens de décrire. Ce salut qui nous concerne. Et c'est pourquoi nous continuons de lui faire confiance, à cause de ce grand salut. Et nous attendons le moment où il nous fera entrer dans le pays promis, sur la nouvelle terre. C'est une promesse de sa part. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Pierre dit dans sa deuxième lettre, 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est notre pays promis. Mais nous n'y sommes pas encore. Et présentement, dans les circonstances adverses que nous pouvons connaître, peut-être en ce moment même, ou plus tard, Dieu, l'auteur de notre salut, nous appelle à la confiance. Quel que soit ce qui peut t'arriver, Dieu nous appelle à la confiance. Il est l'Éternel. Ce nom qui doit nous inspirer crainte et confiance. Et quand bien même la situation s'aggraverait, deviendrait pire, Dieu tiendra toujours ses promesses. Contrairement au peuple et à Moïse, notre attitude doit être différente. Non pas l'incrédulité, non pas le doute, non pas la peur. Face aux difficultés qui peuvent nous atteindre dans ce monde et qui sont bien réelles, personne ne fait semblant quand on souffre, quand on rencontre des difficultés, lorsqu'on doit lutter soi-même avec son propre péché, lorsqu'on subit peut-être la persécution, personne ne fait semblant. C'est une vraie souffrance. Mais pour autant, face à ces difficultés-là, premièrement, ne soyons pas étonnés. Oui, c'est des circonstances qui font partie du monde dans lequel nous habitons. Et deuxièmement, gardons confiance. Gardons confiance en Dieu qui est l'auteur de notre salut et de notre espérance. Alors j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que les difficultés de la vie nous poussent plus à nous plaindre ou à faire confiance au Dieu de notre salut? Et je crois que nous savons très bien ce que Dieu veut, particulièrement dans les circonstances qui peuvent nous accabler. Il veut notre confiance. Quelle que soit la nature de ce que nous vivons, quelle que soit l'inaptitude qui est la nôtre. Après tout, Moïse a dit, encore une fois, il n'a pas la parole facile, mais Dieu l'envoie quand même. C'est à Dieu que cette semaine encore, nous regardons. Est-ce que nous croyons encore, c'est la dernière question, est-ce que nous croyons encore que parce que les circonstances nous sont contraires, Dieu n'est plus avec nous? Je vous invite à la prière. Notre Père et notre Dieu, merci parce que tu ne changes pas. Tu es toujours le même. ce Dieu qui veut sauver son peuple. Merci parce que tu l'as fait en nous envoyant ton Fils Jésus-Christ. Et que c'est grâce à lui que nous pouvons t'appeler Père. Accorde-nous, dans les circonstances que nous vivons, peut-être difficiles pour certains, de ne pas croire que tu nous as abandonnés. Quand bien même la situation pourrait empirer, nous te ferons encore confiance, car tu es l'auteur de notre salut. Seigneur, tu te plais à annoncer d'avance, et parfois très longtemps à l'avance, ce que tu vas accomplir pour que nous ayons confiance en ce que tu dis, pour que nous ayons foi en ta parole. Alors ce matin, nous renouvelons encore notre confiance dans tout ce que tu as promis. Et dans l'adversité, nous regardons à toi, notre Dieu. Toi, l'Éternel. Toi, le Dieu qui œuvre et qui agit quand tout va mal. C'est avec foi que nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.